Bonjour Pascal.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet intéressant, l'évolution de la plateforme matérielle des machines virtuelles de Hyper-V dans Windows Server 2012 R2.
La dernière.
Alors, quelques petits rappels sur Hyper-V et ses apports dans 2012 déjà. Mmh. On a maintenant clairement la possibilité de supporter des très grosses machines, jusqu'à 320 processeurs logiques et 4 Tera de RAM sur l'hyperviseur physique qui fait tourner tout ça. On a la possibilité d'avoir des VM qui ont jusqu'à 64 cœurs logiques, jusqu'à 1 Tera de RAM par machine virtuelle, et on supporte le Fiber Channel, c'est-à-dire la possibilité d'exposer à l'intérieur de la machine virtuelle du stockage en Fiber Channel, sous réserve qu'on ait évidemment un adaptateur Fiber Channel sur l'hyperviseur hôte.
Donc j'imagine que c'est pour faire du clustering.
Entre autres, effectivement, accéder à tout type de stockage directement depuis la VM. La Dynamic Memory, avec la startup Memory, et puis on s'est tourné des machines virtuelles qui ont beaucoup de stockage, avec du VHDX qui permet de supporter jusqu'à 64 terrains. Parmi les autres nouveautés, on sait exécuter des machines qui sont stockées sur du partage de fichiers en SMB 3.0, très important, directement exécuté sur un serveur de fichiers ou sur une baie de stockage qui utilise le protocole SMB 3. Beaucoup d'efforts ont été faits sur la live migration et la storage migration pour faciliter le mouvement des machines virtuelles d'un hôte à l'autre, même s'ils ne sont pas clusterisés. Et puis, des possibilités d'étendre le switch virtuel d'Hyper-V pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et puis d'avoir un accès quasiment direct au matériel en utilisant SRIOV. Et puis, au final, Hyper-V Replica qui permet d'avoir une machine virtuelle en train d'être exécutée et en train d'être dupliquée sur un autre hyperviseur, donc pour aider au plan de reprise après incident. Donc tout ça c'était 2012. 2012 R2, finalement, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté dessus. Bon, on a rajouté pas mal d'améliorations sur ces fondamentaux. On a redimensionné les disques durs virtuels, quelques améliorations sur la live migration dont on va rediscuter dans une autre vidéo. Et puis des meilleures interactions plus riches avec les VM. On va discuter de tout ça également dans d'autres sessions. Et puis des nouvelles fonctionnalités également, comme l'activation des machines virtuelles beaucoup plus simple, et c'est le but de cette discussion aujourd'hui, les machines virtuelles de génération 2. Alors qu'est-ce que c'est, Pascal, que ces machines virtuelles de génération 2?
Donc justement, la virtualisation de machines, ça existe depuis très longtemps, ça existe au moins depuis presque une quinzaine d'années à peu près. Donc au début, tout l'effort qui était fait dans les systèmes de virtualisation de machines consistait à essayer d'émuler au mieux du matériel existant qu'on connaissait à l'époque. Des cartes réseau de marque DEC ou Intel, des cartes vidéo de type S3 ou ce genre de choses-là. Donc petit à petit, les OS et les systèmes de virtualisation ont évolué et on est arrivé à faire plutôt de ce qu'on appelle entre guillemets de la pari virtualisation. C'est-à-dire que l'OS qui est dans la machine virtuelle, l'OS invité, a conscience du fait qu'il est dans une machine virtuelle et en tire parti. Et cette amélioration, donc cette deuxième génération de machines virtuelles pousse encore un petit peu ce concept-là, en faisant en sorte que la plupart des matériels qui sont exposés aux guests, à la machine invitée, sont des matériels qui sont purement synthétiques et qui sont pris en compte nativement par l'OS, l'OS invité.
Donc l'intérêt, c'est d'éviter en fait de passer du cycle CPU à essayer de simuler un comportement alors qu'on peut
Exactement.
Avoir des accès directement natifs.
Et le principe également, c'est d'éviter de charger des drivers anciens, des drivers de vieilles cartes réseau, de vieilles cartes vidéo, dans l'OS invité, alors qu'on a des drivers beaucoup plus légers, beaucoup plus performants et beaucoup plus sûrs en termes de sécurité. Donc le matériel est basé sur un BIOS, un firmware plutôt UEFI, donc par opposition aux anciens BIOS classiques, ce qui permet de nouveaux scénarios, notamment des scénarios de Secure Boot, qu'on peut avoir dans les machines virtuelles maintenant également. Ça permet également d'avoir un boot physique depuis un disque dur virtuel SCSI, alors qu'auparavant on ne savait démarrer dans Hyper-V que des machines virtuelles depuis une carte émulée de type IDE. Mm-hmm. Donc ce qui n'empêchait pas d'avoir des disques de données SCSI, mais le disque de boot devait être IDE.
Bien sûr.
Donc on a le Secure Boot, on a suppression de nombreux périphériques émulés, donc comme j'ai dit précédemment. Et évidemment, pour tirer parti de tout ça, il faut la dernière génération des OS Windows, à savoir Windows 8 64 bits ou Windows Server 2012, et puis la dernière version, donc 8.1 64 bits et 2012 R2. Donc tout ça principalement pour supporter le démarrage sur un firmware UEFI et un disque donc SCSI.
Très bien. À quoi ça ressemble alors dans les matériels un petit peu là,
si on... Donc au niveau matériel, si on regarde la liste, là, donc la liste est un petit peu longue, on ne va pas faire le tour complet, mais on voit dans la colonne de gauche donc, des périphériques qui ont été supprimés, comme le contrôleur IDE, le CD-ROM IDE par défaut, le BIOS classique, la carte réseau de type hérité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une époque où pour des OS qui n'étaient pas Windows, il fallait systématiquement mettre une carte réseau de type hérité, donc une ancienne carte réseau,
absolument,
par opposition à la carte réseau synthétique. Et c'était également le cas pour les OS Windows lorsqu'on voulait démarrer sur le réseau, en ouais. PXE.
Sur donc du PXE.
Voilà. Donc on ne savait pas le faire. Maintenant, on sait le faire avec la carte réseau synthétique.
Et puis au passage, ça nous permet de supporter le PXE sur IPv6.
Exactement. Mmh. Ce qui est quand même fondamental.
Ce qui est fondamental à l'heure actuelle.
Les ports série, les contrôleurs de disquettes, les contrôleurs claviers, les claviers PS2, souris PS2, tout ça, on s'en est débarrassé. Au profit donc de matériel, entre guillemets, logiciel synthétique, avec des drivers natifs, la vidéo S3, etc. Donc au passage, on gagne quand même pas mal de performances. Au démarrage d'une machine de génération 2, on gagne à peu près 20%, donc c'est ce qui a été constaté sur de nombreux tests. 20% de performance au démarrage. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'installation d'un système où là, on gagne 50% de performance, 50% du temps d'installation de la machine virtuelle.
Plutôt intéressant tout ça. Donc, comment est-ce qu'on en tire profit, Pascal ? À quoi ça ressemble ?
Et ben, je te propose de voir tout de suite en démonstration.
C'est parti.
Donc, je vais commencer par montrer une machine virtuelle de génération 1, donc qui tourne en l'occurrence sur Windows Server 2012. Et on va regarder un petit peu ces paramètres. Donc dans ces paramètres, on voit qu'on a pas mal de périphériques qui ne sont pas complètement utiles. Hein. On a des ports série, on a un lecteur de disquettes, on a pas mal de choses. On va comparer maintenant à une machine virtuelle de génération 2. Regardez ses propriétés. Et déjà, on voit que la liste est beaucoup plus courte.
Il y a un peu moins de monde.
Il y a un peu moins de monde là-dedans. C'est un peu plus propre, notamment. Tiens, si j'allais voir un petit peu au niveau du firmware. Et on voit effectivement qu'on a des paramètres typiques d'un firmware UEFI au niveau des paramètres de démarrage. On s'est démarré sur un fichier UEFI, sur un disque ou sur une carte réseau, bien que je n'ai qu'une carte réseau ici qui est de type synthétique. Donc les ports série, j'ai montré. Voilà. Maintenant, on va regarder à l'intérieur d'une machine virtuelle comment ça se passe. Donc j'ai ici une machine virtuelle de génération 1. Et puis ici, une machine virtuelle de génération 2. Et dans chacune de ces machines, j'ai ouvert le gestionnaire de périphériques, le Device Manager.
Avec la partie système.
Et dans la partie système, on voit déjà des différences. On voit pas mal de choses qui ont disparu. Par exemple, le contrôleur d'accès, le contrôleur DMA a disparu dans la génération 2, il a disparu. Le driver S3 de la carte vidéo a également disparu au profit de drivers virtuels, etc. Bon, c'est pas franchement très visuel tout ça, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses en moins qui ont disparu.
Alors comment est-ce qu'on l'a créé cette machine virtuelle Gen 1 et Gen 2?
Alors on connaît l'assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle, hein, on fait nouveau machine virtuelle, nouvelle machine virtuelle, et on a un assistant, donc on donne le nom à la machine virtuelle. On fait suivant, et dès le début de l'assistant, donc, on nous propose ce choix entre génération 1 et génération 2. Donc il faut savoir, et c'est bien indiqué d'ailleurs dans l'assistant, qu'une fois qu'on a choisi un niveau de génération pour notre machine virtuelle, on ne peut pas en changer. Donc je sais que récemment, quelqu'un de chez Microsoft a posté un script de PowerShell permettant de transformer une machine de génération 1 en génération 2. Donc ça consiste en gros à reconstruire une nouvelle machine virtuelle de génération 2 à partir du VHDX ou VHD de la machine virtuelle de génération 1. Mmh. Mais ce n'est pas une transformation telle qu'elle. On recrée une nouvelle machine virtuelle, etc.
Et surtout, ce n'est pas une solution supportée par le support.
Exactement.
C'est à vos propres risques et périls.
Donc évitons d'utiliser ça en production, d'autant que ça n'apporterait pas grand-chose fondamentalement à des machines virtuelles qui font tourner du Windows Server 2012, voire R2.
Ok, donc c'est ce choix philosophique dès le début de la création de la machine, hein, entre Gen 1 et Gen 2.
On nous rappelle également dans l'assistant que pour une génération 2, il faut un OS assez récent, donc 64 bits, pour supporter également le boot sur le UEFI. Et quelques fonctionnalités fondamentales que ça nous apporte, comme le Secure Boot, le boot sur SCSI, etc.
D'accord.
Ensuite, le reste de l'assistant est totalement classique. On choisit la mémoire, la connexion réseau, et le reste, le disque, on crée un nouveau disque, etc.
Donc là, comme, rien, comme d'habitude.
Rien de nouveau là-dedans.
Super.
Voilà ce que je pouvais te montrer rapidement sur les VM de génération 2.
Eh bien, merci Pascal. À bientôt.
Merci Arnaud.